Stéphanie Schultz, Adelma Tapia Ruiz, Rosario Volker,
Mélanie, Olivier, David, Sabrina, Raghavendran, Mai, Lukna, Gilles,
Soraya Belkacemi, Patrice Brunt, Dominique Chabrier, Igor Tchelechko.
Le 22 mars 2016, Liam avait 5 mois. Il était dans un porte-bébé contre sa mère qui l'a protégé lors de l'attentat à Zaventem. 10 ans plus tard, ils sont à deux sur scène. C'est l'un des moments forts de la cérémonie. Des couronnes de fleurs sont déposées sur le monument dédié aux victimes, avec l'importance pour leurs proches que personne ne les oublie.
Je ne viendrai peut-être pas aux suivantes, mais pour continuer à vivre, mettre un pas devant l'autre, c'était absolument indispensable.
Pour beaucoup de personnes, c'est 10 ans plus tard. Pour nous, c'est comme si c'était hier.
Il ne faut pas s'installer dans la mémoire. Ça doit être un lieu de départ et c'est aussi un lieu où il faut raconter, je pense, aux nouvelles générations qu'il y a peut-être des erreurs à ne pas commettre et qu'il faut être attentif au vivre ensemble.
Un hommage national ponctué par une minute de silence. Des membres du gouvernement, des victimes et familles de victimes, tout comme des secouristes présents ce 22 mars 2016, partagent cette émotion commune. Un moment rare, 10 ans plus tard, le roi prend la parole.
Ceux qui nous ont quittés ce jour-là resteront pour toujours dans nos cœurs. 10 ans ont passé depuis, mais pour beaucoup d'entre vous, le temps n'a pas adouci la douleur. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous, pour saluer votre courage, pour affirmer que notre pays n'oubliera jamais.
Une commémoration qui donne aussi aux victimes l'opportunité de passer des messages aux autorités. Christelle Giovannetti est une rescapée du métro de Malbec.
Le silence d'un État censé nous protéger nous a pour beaucoup plongé dans un nouveau sentiment d'insécurité. Nous sommes nombreux à avoir été contraints au combat avec des sociétés d'assurance à armes inégales. Nombreux à avoir pénétré dans les arcanes administratifs sans en être encore sortis.
10 ans plus tard, la Belgique n'a pas oublié l'un des pires jours de son histoire.
Il n'est plus là, il ne sera plus jamais.
Aucun souvenir de lui, je le connais que par les histoires ou les photos. Perdre un père, c'est horrible dans toute situation, mais dans un attentat et en n'ayant aucun souvenir de lui, ne devrait pas exister.
Et j'arrête pas de parler de toi dans toutes mes prières, ça fait déjà 10 ans, mais pour moi c'est comme si c'était hier, alors j'écris des textes seuls pour vous raconter ma vie.
Ma sœur, est-ce que tu sais que je me sens si mal depuis que t'es partie?
Moi j'ai cru que j'allais mourir parce que j'étais pas dans un bon état. Et puis je suis parvenue à atteindre mes fils au téléphone et je leur ai dit adieu parce que je leur ai dit de dire à mon mari que c'était l'amour de ma vie.
C'était plus difficile que je le pensais émotionnellement. Mais c'était quand même, pour moi c'était important d'être là, de parler, de témoigner.
Voyons à présent avec du recul. Tels encore et surtout, les terroristes utilisent-ils toujours les mêmes méthodes qu'à l'époque? C'est l'enquête de ce soir, elle est signée.
Il débute dans un magasin de bricolage, dans le rayon droguerie. On retrouve toutes sortes de solvants, de combustibles ou d'engrais, utilisés notamment pour le nettoyage ou l'agriculture. L'acétone est par exemple en vente libre. Un produit qui, on s'en rappelle, avait été utilisé par les terroristes le 22 mars pour confectionner les explosifs.
Une perquisition a été effectuée à cette adresse et a permis de découvrir 15 kg d'explosifs de type TATP, 150 litres d'acétone, 30 litres d'eau oxygénée, des détonateurs, une valise remplie de clous.
Dans le magasin, nous interpellons un vendeur pour trouver un autre composant du TATP, le peroxyde d'hydrogène.
Est-ce qu'on aurait du peroxyde d'hydrogène dans le magasin ?
son collègue, semble connaître l'utilisation potentielle de ce produit. L'acétone, en revanche, est bien dans les rayons. Nous chargeons notre caddie d'une quantité importante, 20 litres, ce qui devrait éveiller les soupçons.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
S'il vous plaît.
Non, ça fera 130 euros.
Monsieur, je ne vais pas vous les acheter, mais est-ce que ça vous étonne que j'achète tant de produits comme ça? Ça vous étonne pas? Ce produit-là en particulier?
Ouais, comme ça, mais bon, après, je n'ai pas spécialement de directive.
Vous n'avez pas de directive vous, par rapport à ça
Particulièrement, non, mais après, pour ce qui est pareil, je demanderai à ma responsable quand même.
Là, vous devriez demander à votre responsable, quoi. D'accord, mais là, vous ne l'avez pas fait quand même.
La vente est pourtant réglementée. En théorie, tout magasin dispose de ce document. Il y est indiqué ceci.
C'est une réalité, certains individus achètent sur le marché régulier les matières premières nécessaires à la fabrication artisanale d'explosifs.
Une liste bien précise de produits est à surveiller, dont l'acétone, le magasin se défend.
Une procédure claire est régulièrement rappelée au magasin. Lors de l'achat de ces produits, un pop-up contextuel s'affiche sur l'écran des caisses pour avertir l'employé qu'il s'agit d'un produit à risque. L'acétone figure sur la liste.
Un client nerveux qui achète une quantité inhabituelle et ne fournit aucune explication, en théorie, doit être signalé à la police par le commerçant. En pratique, notre tentative le démontre, il existe des failles.
Le problème, c'est que ce sont des produits dont l'usage peut être détourné pour fabriquer des explosifs. Et donc, c'est ça qui nécessite le fait de contrôler.
Est-ce que les commerçants jouent au jeu, finalement?
En tout cas, c'est une réglementation qu'on contrôle chaque année. L'an dernier, on a réalisé 43 enquêtes sur ce sujet-là. Et on a constaté, effectivement, une série d'infractions. La majorité, elle concernait le fait que le professionnel n'a pas été interrogé sur son secteur d'activité, ou pas suffisamment, ou alors que les données personnelles n'ont pas été collectées ou pas conservées suffisamment longtemps.
Sur Internet, des guides pour fabriquer ces bombes artisanales ont circulé.
Je ne savais pas que ce genre de guide existait, même si on pouvait le suspecter, évidemment. Plutôt un document à ne pas mettre entre toutes les mains.
Le TATP est un explosif primaire, préparé avec des produits relativement communs, sans équipement spécifique. Mais la manipulation est extrêmement dangereuse.
Le composé est sensible à la friction. Donc la moindre friction excessive en le manipulant, par exemple en le transvasant dans un récipient ou en fermant un couvercle, ça peut suffire pour déclencher une explosion.
Pour les attentats de Bruxelles, les explosions avaient été déclenchées grâce à Najim Lachraoui, surnommé l'artificier. Il avait acquis les compétences en Syrie avant de revenir en Europe. Ces dernières années, selon cet expert, des jeunes auraient tenté de s'auto-former à la fabrication d'explosifs. Ils improvisent, heureusement sans compétences.
Il y a des personnes qui s'intéressent aux explosifs, des personnes qui aimeraient bien utiliser des explosifs. Mais systématiquement, ils n'arrivent jamais au bout et ils n'arrivent jamais à acquérir les compétences techniques nécessaires à la fabrication d'explosifs. Le plus simple pour eux, ça va être de prendre un couteau et de tuer quelqu'un, de prendre son véhicule, d'essayer de foncer contre des gens, ou éventuellement inciter d'autres personnes à faire quelque chose.
Début mars, deux engins explosifs ont été jetés aux abords d'une manifestation anti-islam à New York. Ils contenaient du TATP, mais il n'y a heureusement pas de blessés. Un acte qualifié de terroriste, toujours inspiré par l'État islamique. Existe-t-il une telle menace en Belgique? La police refuse tout commentaire.